Radio Royan vous présente un feuilleton balade patrimoniale avec les amis du vieux Saint-André. En allant au pont par le paradis. Sous la conduite de François et Marie-Noël Capéran, l'association basée à Saint-André-en-Royan invitait pour ce jour d'octobre 2012 des passionnés ou simples curieux à rejoindre à pied depuis le village de Saint-André, Pont-en-Royan, où nous attend Gilles Méus de l'association patrimoniale Si Pont m'était compté. Balade empruntant un chemin historique avec de nombreuses traces de lieux faisant état d'un riche patrimoine en mouvement. Ce parcours effectué à cette occasion fait référence au circuit numéro 3 du livret Bienvenue à Saint-André, édité par l'association et proposant de multiples et divers circuits depuis le village. Distance allée 3,3 km, retour 3,9 km, dénivelé 200 mètres. Cinquième et dernier épisode. Après être parvenu à Pont-en-Royan par le paradis, la rencontre tant attendue entre les amis du vieux Saint-André et leurs homologues pontois Si Pont m'était compté, emmenés par Gilles Méus.
Nous sommes déjà plus qu'au paradis. On est encore au paradis 3, oui, parce que le bâtiment là, c'est paradis 3.
Accueil et invitation à poursuivre cette balade vers le village.
Parce que tout doucement, le lotissement, c'était un peu plus loin.
On a dit là que c'était là, pendant la guerre, pendant les bombardements, les Pontois venaient se réfugier ici. Alors il y a un nom, mais la dame ne se souvient plus du nom.
On y va.
En fait, c'est une période comme ça. Et il y a eu pas mal de morts quand même la première fois, parce qu'évidemment, Pont c'était petit. Et le premier, tout le monde disait, le premier qui est venu bombarder, il n'avait pas peur parce qu'il a plongé. Le deuxième, moins. Mais enfin, le premier.
29 juin, c'était.
En 44 ?
29 juin 44. Et donc, sept avions venant de Saint-Jean et de ce côté-là, longeant la montagne, sont parvenus à vraiment tourner au-dessus du pont. Il y en a un qui a essayé de faire tomber une bombe sur le pont, mais elle a roulé, elle n'a pas explosé. Et puis les sept autres, ils avaient une bombe attachée sous l'avion, c'était une énorme bombe. Chaque avion avait une bombe qu'il a lâchée progressivement, dont une sur l'école. Une au milieu du village, près de la place de la Halle, là, chez les Maillets.
La grande rue aussi.
Et une sur la grande rue, là, en face de la poste.
Comme et puis vers là-bas, la maison, en face, comment ça s'appelle, là-haut, à peu près plus haut que
ah, chez
Glénat.
Voilà.
Et puis Glénat aussi.
Chez Glénat aussi.
Mais là, c'est vrai que le premier, il a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de morts.
Et pourquoi Pont? Parce que c'était pour empêcher les résistants de...
C'est-à-dire qu'à Pont, il y avait des... C'était un noyau de résistance.
C'était vraiment une entrée.
Il y avait un bureau.
Les Allemands ont voulu aussi décourager tous les abords du Vercors avant de faire leur envahissement du Vercors. Et donc, à Pont, c'était pour eux nécessaire de se marquer.
Oui, c'était un verrou. Et souvent, quand les grands chefs ils se rencontraient à Pont, quand il y avait des réunions.
Oui, mais je me rappelle que nous... mes parents, mes frères et autres faisaient partie, enfin mes frères faisaient partie du maquis. Et je rappelle qu'on faisait du tabac pour les résistants à la maison. Ils avaient fait un genre de cône comme ça. On faisait sécher le tabac, ils coupaient le tabac, on faisait sécher, je ne sais pas comment. Et il y avait un monsieur tout seul avec un genre de baïonnette, pas quoi, sur un balcon. C'est arrivé tout. Les Allemands, je crois que le seul, et puis nous, je crois pas qu'on aurait fait. Puis le bruit que ça faisait, ces trucs-là, sur une planche hachée, ça faisait beaucoup de bruit.
Oui, ça devait faire beaucoup de bruit, les avions qui passaient, parce que les falaises et tout ça...
Ah,
ça
ici, quand il y a l'orage, il y a le tonnerre.
Le bruit que ça fait.
Il y en a eu deux, bombardements. Mais le deuxième, les gens étaient prévenus, on était partis, il y a eu moins de dégâts et moins de morts. Mais enfin, ils avaient pu, pour dire la vérité, peut-être que ce n'étaient pas les mêmes pilotes, il a moins passé vers la montagne, parce que le premier, il a pris des risques. C'était vraiment, vous savez, vers la falaise quand ils arrivaient là.
C'est de la même famille.
Oui, mais c'est pas...
Et ça, c'est donc un endroit où se réfugier...
Et c'est-à-dire que le premier bombardement, le soir, personne ne voulait coucher dans les maisons. On était venus ici, après on était allés dans ce qu'on appelait les vignes. Il y avait des cabanes de l'autre côté, là, du coteau. Et puis après, on est parti du côté d'Aubrive, dans les campagnes environnantes. Ah ben de là, on voit bien cette la Lyon, ouais, mieux à gauche. Et au fond, c'est Saint-Laurent avec le clocher, là.
C'est un nom, cette cachette? Non, il n'y avait pas un nom?
Mais si, on me l'a dit dimanche, mais je crois que j'ai dormi dessus, je ne me rappelle plus.
Saint-Laurent, c'est le plus loin qu'on voit là-bas,
le plus loin.
Le plus loin là-bas. Ou c'est Saint-Jean qui est là-bas?
Non, non, c'est Saint-Laurent.
C'est Saint-Laurent, aussi loin que ça.
Donc Saint-Jean, on ne le voit pas de là.
Ah bon.
Et à gauche, le clocher un peu plus carré, c'est Sainte-Eulalie. Sainte-Eulalie, ça doit être derrière les...
Oui, c'est l'entrée des Grands Goulets, là.
Oui, voilà.
Sainte-Eulalie,
ouais. Ouh là là, regarde là-bas, regarde là-bas, je lui racontais comme ils sont...
C'est magnifique, en fait...
Pourquoi ça marche?
Non, mais c'est le propriétaire de la maison.
Oui, oui, c'est du planté, ça. Mais c'est magnifique parce que... Voilà. Oui, oui. C'est très lumineux.
Des couleurs complémentaires. Rouge et vert.
C'est joli, comme couleur. Alors, en bas, c'était le paradis 1. Et là, c'est le paradis 2, déjà. Et après, là-haut, c'était le 3. Alors, comme on disait, les gens arrivent au paradis en voiture.
Alors là, c'est quoi? C'est une fortification du château? Bon, Gilles, c'est une fortification du château, ça, la porte Agnès?
Non, non, sûrement pas. On le voit...
Attention, attention, Bernard!
Justement, on en discutait avec Jean. La manière de mettre les pierres est beaucoup plus récente. Quand on voit des vrais murs féodaux, c'est extraordinaire comment les pierres sont ajustées et que les joints sont minuscules. Et donc, à mon avis, ceci, c'est même peut-être pour les travaux de la route, un élargissement ou quoi. Et c'est un mur ancien, puisqu'on voit bien qu'il est vieux, mais il n'a pas 5 siècles, quoi.
Ah, c'est plus loin.
On pourrait même être emporté par le vent.
Vous connaissiez ce chemin?
Non, celui-ci là. C'est l'autre qui monte, oui, mais pas celui-ci.
Non, mais de Saint-André à Pont. Quand on est à Saint-Marcelin, c'est à l'automne quand on veut faire une petite balade. En fait, on fait le Mont Barré, hein. Ah. Pas le Mont Barré, on monte à Touzor.
Oui.
Et puis après, on revient par là. Voilà. On doit monter là. Oui. Oui, c'est pour monter aux trois châteaux, là. Ah ben, la porte Agnès, elle est là.
C'est là qu'on monte aux trois châteaux.
Non, c'est là, la porte Agnès.
Non, les trois châteaux, c'est là.
Oui, les trois châteaux, c'est là.
Et alors, ils mettent combien? 30 minutes pour les trois châteaux?
Il la faut, il la faut.
On peut en rajouter.
Il faut parce que c'est dur. Hein. Ça grimpouille, hein.
Et c'est là au-dessus qu'on trouve des bouquetins?
Pareil, ouais.
Ouais. Pas tous les, pas toutes les fois.
Ah ben moi,
mais ici, on doit voir encore le plus.
Au pas de l'Allier.
Mais ici, il y a un grand bouquetin, un mâle, qui vient souvent sur la crête le matin, avant qu'il y ait des promeneurs. Et donc, les gens du village, très souvent le matin, comme on a la prière du matin, ils regardent vers la montagne pour voir si le bouquetin n'est pas là. Oui, on dit que les derniers vestiges se sont écroulés en 1980. Par un grand coup de vent, un jour de tempête, les vestiges du château. Il n'y a pas longtemps qu'il y avait encore des murs plus élevés ou plus grands que ce qui reste maintenant. Il n'y a plus qu'un seul pan de mur.
Alors, il y en a qui disent... Honnêtement, j'y crois, qui irait un souterrain, qui descendrait à travers la montagne, là, et qui sortirait là-dessous. Hein, Gilles, raconte-nous l'histoire du souterrain.
Il n'y a rien à dire sur l'histoire du souterrain. Tout le monde en parle et personne ne l'a vu, le souterrain. Et donc, on trouve des trous partout et on dit que c'est le début du souterrain. Et comme en plus, toutes les caves de pont sont reliées l'une à l'autre, on dit que c'est aussi un souterrain, ce qui est peut-être possible. Ça créait des circulations invisibles dans le bourg. De là à dire qu'il y avait un souterrain jusqu'au château, on n'en sait rien.
C'est monter déjà par les lacets, c'est déjà bien fatigant. Ouais. Alors si c'était tout droit, merde.
Oh, mais ce serait des escaliers, alors.
Ah ben, faudrait, oui. Alors, il y a un puits là-haut, alors peut-être que le puits... mon avis, c'était une réserve d'eau hein, pour les militaires qui restaient là-haut. Ouais.
En tant que pontois, nous sommes maintenant heureux de vous accueillir à ce qu'on nomme la Porte Agnès.
Voilà.
Source de malentendus de toutes sortes, parce qu'on dit souvent même la Porte Sainte-Agnès. Encore récemment, dans une jolie brochure qui vient de paraître sur Pont, on a repris le mot Porte Sainte-Agnès, où certains même rectifient en disant « c'est sans doute Porte Saint-André ». Et donc, sur base de vieux documents, je peux dire que la Porte Agnès, non seulement elle n'est pas ici, mais ce n'est pas une porte. En réalité, il faut dire Pont Agnès. Et on va la rencontrer un peu plus bas, près de la Tour de l'Horloge. Et ceci, c'est la porte du bourg supérieur. Et très souvent, les pontois disent le bourg supérieur. C'est encore une appellation bien connue. La deuxième chose, c'est que les gens du patrimoine qui sont venus en 2002 ont montré qu'on avait ici les restes d'une porte avec un pont-levis. Et en fait, c'est tout à fait organisé. On le voit là-bas avec cette grande pilastre et la pilastre à côté. Et on y trouve encore les gonds de la porte. Mais également, ces deux grandes pilastres permettaient à un mouvement de balancier de faire monter le pont, la planche qui était à peu près sur cette surface-là.
Sur la surface là-bas, qui remplace ces 2-3 mètres-là,
il y avait une planche qui se relevait. Ça paraît tout à fait plausible d'après les restes de construction. Et ensuite, si on regarde effectivement le pont sur lequel nous sommes, il y a la descente des eaux, là, le creux qui longe depuis le Trois Châteaux un mur qui se trouve toujours là caché sous les fronts des eaux. Il y a toujours le mur, il est là. Donc il y avait un mur de forteresse qui partait du Trois Châteaux qui arrivait ici et puis qui continuait. Et si vous regardez ici en dessous, il y a effectivement la rivière. Mais quand il y a un pont-levis, il y a d'une part la rivière et d'un autre côté la crevasse au-dessus duquel la planche va se relever. Et on trouve tout ceci dans les fondations ici. Alors c'est très important, pourquoi ? Parce qu'on a toujours dit à Pont-en-Royans il y a deux châteaux. Il y a un château au-dessus et il y a un château dans la ville. Mais personne ne sait où il est et on l'appelle le château de la Corbeille. Et donc à la réflexion, sur base de ce que j'ai pu lire sur comment vivait le seigneur au temps du Moyen-Âge, il avait son château et puis il avait sa cour. Et sa cour, au fond, c'était les dépendances, la cour de ferme, on va même dire, où il pouvait avoir des soldats, des fermiers, etc. Et quand on regarde, au fond, ce bourg supérieur, c'est un petit village qui pouvait être très renfermé et qui pouvait être peut-être le deuxième château du seigneur. Il avait son château de défense, là au-dessus, qui était quand même assez vaste, et un deuxième château qui était toujours, qui lui appartenait, et qui était peut-être le début du village anciennement. Ce sont des hypothèses, mais c'est l'idée d'avoir ici un pont-levis qui me fait dire c'était donc une construction féodale qui était peut-être un château et l'ancêtre du village. Voilà ce qu'on peut dire de cette porte qui a tout récemment reçu un nouveau nom qui célèbre l'ancien maire de Pont-en-Royans, récemment décédé. Et donc ici, on voit l'escalier qui descend.
Oui.
C'est à la fois le creux de la rivière qui va descendre jusque le long du Breuil, où on va retrouver le mur des remparts, et avec le petit creux de rivière qui passe le long des remparts, là-bas tout en bas du village. Donc c'était bien une descente. On ne sait pas s'il n'y a jamais eu beaucoup d'eau, mais ça formait une crevasse et à côté, un mur de défense. Mais peut-être qu'au début, ce n'est que dans un deuxième temps que le village s'est étendu jusque-là. Peut-être qu'au début, la muraille passait beaucoup plus ici à gauche pour rejoindre la Tour de l'Horloge. Ici, ici pont-levis, avec... où est-ce qu'ils sont les gonds ? Il y en a ici. Il y en a un autre, quelque part par là. Et même là, sans doute une poutrelle, on ne sait pas pourquoi, également pour fermer, pour défendre.
À Saint-André, il y avait un pont sous le vent, c'est-à-dire qu'on soulevait, et après qu'on tirait.
Ah voilà.
Hein, c'est-à-dire on le laissait d'un côté soulevé, puis on le tirait avec des bœufs ou des jambes qui le tiraient. Mais c'était tout petit et ça ressemblait tout à fait à cette dimension.
Comme dimension.
Et alors la même chose aussi, un pont. Qui
crevasse,
où il
n'y
a pas d'eau,
oui.
Et un fossé. Un endroit où il y a...
Il y a une grande.
Et là, à gauche, alors ?
Et là, c'est un autre itinéraire qu'on peut rejoindre aussi, mais il y a deux chemins possibles à Pont.
Deux,
à peine.
2000, oui.
Ah, c'est comme on veut.
C'est plus joli par là. C'est plus joli, oui.
Ah bon ?
Regardez les belles roses blanches. Oui, par là. Mais là, moi, je ne l'ai jamais fait par là.
Ah voilà. En fait, j'aime bien ce côté-là parce qu'on voit une épaisseur de mur sur lequel le chemin donne.
Là. Rose blanche. Et ça alors, regardez cet escalier.
Alors ce chemin-là, c'est un chemin communal qui continue à monter dans la montagne, il s'appelle le chemin de la corbeille. Et donc une autre hypothèse, c'est qu'au bout de ce chemin-là, il y aurait peut-être perdu dans les frondaisons un château, mais on a beau avoir couru, il y a un très beau mur, très très beau mur ancien. Mais on n'a rien trouvé de construction.
Surtout quand on monte pas.
Non, ça monte pas au sommet.
Il y a quelques ruines de maisons, donc c'était habité. Hein. Oui. Il y a même une maison troglodyte.
Oui, on trouve encore des creux dans la molasse.
Il a pas le
Alors tous ces endroits mènent à des jardins, à des systèmes où l'été les gens viennent un peu buller.
Oui, cultiver ou buller. Alors il y en a aussi beaucoup qui sont abandonnés, qui ne sont plus entretenus. Mais il y a quelques années, ça fonctionnait.
Là-bas, il y a un passage dessous. Tu vois ?
Dommage qu'ils aient mis des cornières au lieu de faire carrément, mais c'est peut-être ancien. Oui, c'est très ancien, avoir la rouille. Oh là là, mais ça c'est un truc qui a 60 ans, je dirais vraiment, parce que nous l'avons fait il y a 40 ans et c'est loin d'être abîmé comme ça. Mais le mieux c'est de mettre des poteaux renforcés. Et c'est inusable, je veux dire. Quoi, la rouille n'a pas accès. Ah oui.
Oui, oui.
C'est la tour de l'horloge.
On dit d'ici, elle a l'air tout à fait anodine parce qu'on la surplombe, et en réalité, elle a trois étages.
Ça date de quand, ça ?
Alors, elle est féodale parce que, à mon avis, c'est le premier rempart de la ville avec la porte centrale, donc à part la porte du bourg supérieur, c'est la deuxième porte. Et à ce moment-là, le bourg s'arrêtait là, après il s'est allongé.
Et le clocheton, là, qui est un truc.
Et ça, c'est l'église. On voit le chœur à gauche et on voit toute la nef à droite.
Le campanile, donc c'est 13e, 14e, je pense. 13e, 14e.
La tour de l'horloge, oui. Tandis que le clocher, il a été entièrement refait et en plusieurs étapes d'ailleurs. Au début, il était beaucoup plus bas. Et en 1868, je crois, on a fait des plans, on a fait une première construction. Et puis ce n'est qu'au début 19e, 1910, qu'on a intégré les horloges et qu'on a fait une nouvelle toiture.
Il y a une des tombes ici qui est celle d'un odier. C'est une tombe d'un protestant qui a été enterré dans son jardin. Et je pense que c'est ici, mais j'en suis pas très sûr. Et sur cette tombe, il y a marqué son nom et tout. Et ça a fait la,
comment dire, ça a été la photo de, d'une thèse qu'avait fait Olivier Cogne il y a maintenant 15 ans à peu près, voilà. Sur les protestants, c'est deux tomes de 300 pages sur les protestants de Pont-en-Royan.
Alors, ici, c'est la tour de l'horloge, il y avait une horloge. Donc, quand ça a été détruit en 1944, il n'y a plus d'horloge, mais peut-être qu'il n'y en avait plus avant. Mais il y a un gros plomb comme ça, très difficile à soulever à la main, avec deux poulies en bois, et c'était le contrepoids de l'horloge.
Ah, d'accord.
Et c'est le seul truc qui reste. Voilà.
Et alors, je vais te dire que l'horloger qui avait monté ça, hein, et qui était chargé de son entretien, a été le maire de Pont à un moment, et s'appelait Atuyer.
Ah oui,
voilà.
Atuyer,
maire de Pont, et il avait son magasin dans la Grand Rue.
Oui.
Et il remontait l'horloge de l'église et l'horloge de...
Ah, d'accord.
Avant la dernière guerre, entre les deux guerres. Voilà, Gilles, tu as des choses à nous dire ?
Oui, donc, d'une part, on est passé à côté d'une maison là-bas, qui est la première maison de Bob Ten Hoop, le peintre hollandais qui a été très connu à Pont-en-Royan, et donc qui est un personnage qui fait tout à fait partie de la vie de Pont, même si maintenant il est retourné en Hollande, il est trop âgé sans doute pour encore revenir. Mais dans une deuxième partie de sa vie, il a beaucoup plus vécu à la Villeneuve, où il a également une maison. Mais il faut aussi dire qu'à l'origine de sa vie, il est venu seulement faire un stage d'échange de peintres. Il a été logé à l'hôtel Bonnard. Et il a créé une très longue amitié avec l'hôtelier. Il est resté là-bas d'abord. Il payait sa chambre en faisant des peintures pour la famille Brémond. Et puis, c'est seulement après qu'il a pu acheter des maisons ici à Pont-en-Royan. Et tout le monde nous a dit, ah, c'est un des personnages de Pont-en-Royan, ce peintre hollandais qui est venu comme jeune stagiaire et qui a fait une carrière importante. Il est très bien reconnu comme grand peintre aux Pays-Bas.
Il a gardé les deux maisons ?
Et il a gardé les deux maisons. Il paraît que cette maison-là est pleine de tableaux, mais je n'en sais pas plus.
Chez Robert Bousquet, j'ai vu un portrait de Bob Ten Hoop.
Le vrai quartier de ce qu'on a appelé la Porte Agnès ensuite, c'est ici. J'ai pu le lire dans des documents notariés. On a fait une importante vente de toute une série de maisons. Et plusieurs maisons qui étaient ici étaient appelées dans le quartier Pont-Agnèse. Et écrit en un seul mot, Pont-Agnèse.
Oh là.
Donc rien à voir avec Agnès, mais le Pont-Agnèse. Et ça m'a renvoyé à une petite notation que j'avais déjà vue, qui est la personne qui est chargée de lever les taxes sur les gens qui passent sur le pont s'appelle un pontanier. Et donc c'est sans doute ici, à la porte, qui était au départ la seule porte de sortie de la ville vers les routes, se trouvait l'officier payeur qui faisait payer les taxes sur les prisonniers, les bestiaux, les chargements, le vin, toutes les taxes de passage, et c'était le pontanier. D'où le quartier du Pont-Agnès, et d'où aussi le quartier de la rue de la Poutagne, dans un mot du patois sans doute, qui désignait la même chose, rue de la Taxe, rue de la Poutagne.
Et donc là, c'était vraiment la porte de par où rentraient les gens qui...
Tout à fait, je pense que le premier rempart est bien ici, et on a vu des maisons adossées au rempart, il y a celle-ci, mais on trouve sur des vieux dessins aussi, ici en contrebas, un mur qu'on évoque également qui passe devant l'église et le long de la mairie. Il y avait un mur du Moyen-Âge là qui est resté jusqu'à la Révolution française. Il y a une grosse dispute sur ce fameux mur. Donc il y avait vraiment un rempart ici, le premier rempart. Et puis on s'est élargi jusqu'à la Porte de France. Et là, on est resté après la Révolution. Donc je pense qu'entre les guerres de religion 1600 et la Révolution, c'est l'extension par là. Bien que peut-être les premières maisons ici qui sont des boutiques, c'était des boutiques hors les murs. Et c'est que peu à peu c'est devenu une rue habitée, la rue de l'horloge.
Ah, c'était hors des murs.
Je pense que c'était hors des murs parce qu'il y a des maisons plus anciennes. On trouve à Pont beaucoup de vieux linteaux très jolis, très bien sculptés, avec ici des coquilles Saint-Jacques. Alors ce n'est pas du tout le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ici, parce qu'il passe à Saint-Antoine.
donc il ne passe pas ici. Alors, ou bien c'est quelqu'un qui s'est offert des coquilles Saint-Jacques parce qu'il avait été à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et de toute façon, on voit bien que ce linteau qui est relativement ajusté, malgré tout, il n'a pas la même décoration. Et là, il est trop long. Il vient d'autre part. Et donc, il y a beaucoup à Pont, de, comme partout, des linteaux déplacés, réutilisés. Et on ne sait pas du tout s'il y a longtemps que c'est comme ça.
En route.
Alors on passe la place du temple, mais c'est une longue histoire, on ne la fera pas. On passe la maison de M. Yun, qui est le petit jardin où on a trouvé du fenouil sur le chemin. C'est lui qui avait la tonnelle qui était là-haut.
C'est un monsieur de 93 ans, qui, voilà. Qui était militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait la campagne d'Italie et tout.
Ah. Bonjour.
Bonjour.
Et ici, ce qui est important aussi, c'est de voir ces petites portes qui occupent les espaces entre les maisons.
Parce que regardez un peu ce mur.
Voilà. Donc ça, c'est une des maisons les plus anciennes du village. Si vous regardez à l'intérieur, non pas le mur ici, mais le mur intérieur, il est découpé en ogives. Et donc, c'est une trace d'une maison du XIIIe siècle, sans doute. C'est une des maisons les plus anciennes de Pont, celle-là. Et donc, ce que moi, je disais, on a ici une fondation en pierre de tuf, mais c'est seulement pour l'escalier qui a été rajouté. Et puis, vous voyez qu'il y a un interstice entre les deux maisons qui va jusqu'à l'arrière. Et je vous en montrer un autre. Et donc, les maisons féodales avaient des pierres à évier qui coulaient au travers du mur et qui coulaient entre les maisons. Et également, après, les excréments aussi coulaient entre les maisons et les systèmes d'égouttage étaient là entre les deux. D'accord, on va en voir une plus loin. Et on a dit qu'on trouve plusieurs de ces portes à Pont-en-Royant. On peut reconstituer le réseau des égouts à partir de ça.
Ils avaient l'eau à l'évier, ils avaient le
tout. Et ça descendait jusqu'à la Bourne. Voilà.
Mais c'était à ciel ouvert? C'était à ciel ouvert ou c'était recouvert?
Au départ, c'était à ciel ouvert, mais on a fait réellement des travaux sur les égouts et j'ai compris qu'un de ces égouts passe sous ma maison. Et effectivement, quand j'ai changé les choses à la cave chez moi, on m'a dit, mais ça descend directement dans le sol parce que le tuyau est là et il correspond tout à fait au tracé qu'on va voir maintenant. Voilà, c'est ici qu'il faut voir les égouttages. Voilà. Si on regarde bien, on va voir l'interstice entre les deux maisons, qu'on voit jusqu'au ciel, il y a de la lumière jusqu'au-dessus, et donc les égouttages descendaient par là, et on voit en fait bien l'arrivée des égouts, qui est là, qui descend sous les escaliers, et qui traverse en dessous de ma maison, un égouttage qui existe toujours. Voilà, ça c'est tout à fait classique. Et après, quand les gens ont voulu moderniser les maisons, souvent, ils percent un trou dans leur mur, ils y installent la toilette, un sanitaire avec les raccords d'ici, voilà, ouais, exactement.
Fenêtre à
meneaux, quelques très vieilles, très anciennes maisons ici. Oui. Là, il y a une belle fenêtre à meneaux.
Belle fenêtre à meneaux.
Par contre, le linteau, apparemment, il semblerait d'origine, parce que on voit qu'il y a toutes les pierres correspondent bien.
Fin de ce cinquième et dernier épisode en allant au pont par le paradis, balade patrimoniale proposée par les amis du vieux Saint-André. Ce parcours historique que nous avons emprunté faisait référence au circuit numéro 3 de la brochure éditée par l'association ayant pour titre « Bienvenue à Saint-André », livré dans lequel figurent 5 circuits à partir du village. Merci à Marie-Noël et François Capéran de l'association, ainsi qu'à Gilles Méus de l'association Cipon Mété Comté de nous avoir guidés tout au long de ce parcours.
À l'église, et même cette rue, on n'en sait rien. Oui, elle existait puisque la halle était ici, sans doute que...
Oui, mais la rue principale était là.
Oui,
la rue principale. Elle est dangereuse, celle-là.
On n'en a jamais parlé.